Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On n'a pas besoin de vous envoyer un courriel d'une semaine à l'autre. Vous êtes de fidèles auditeurs et auditrices, j'en suis convaincu, de l'émission peut contenir des infos. C'est vrai?
Bien, certainement, on a toujours les gens au rendez-vous.
Et voilà, les gens sont là d'une semaine à l'autre pour écouter Cathy. Comment vas-tu?
Mais très bien, toi-même, Simon?
Ça va bien, merci. Puis ce serait encore pire si on envoyait des fax, mais ça, c'est une autre époque. Ça, c'est mon époque à moi, ça.
Je peux-tu te faire une confession?
Oui, vas-y donc.
Je sais pas vraiment comment ça fonctionne, un fax.
Ah ouais,
comme j'ai besoin d'une explication au début. Okay. C'est pas naturel. Mais par contre, je peux t'expliquer plein d'applications puis d'autres choses de techno, mais un fax, pour moi, c'est... On dirait que mon cerveau assimile pas le fait qu'un papier passe par une ligne téléphone. En tout cas, puis c'est étrange. C'est une technologie d'une autre génération.
Mais c'est pas le même papier que vous mettez dans la machine qui ressort à l'autre bout, là.
Je sais. Je suis blonde, mais pas le temps plein. J'étais peut-être pas clair mon affaire, mais non, je sais bien que c'est pas le même papier, mais en tout cas, c'est... Voilà, mais il a fallu avoir un ancêtre au courriel.
OK, c'est ça. Mais ça, on appellerait ça de la téléportation.
Ça serait pas pire, par exemple, très moins coûteux.
Ça serait une pas pire affaire, par exemple. Ouais. Hein? T'sais, on n'aurait plus besoin de courrier et de choses comme celle-là. Tu envoies ça dans une espèce de télépod, puis ça s'en va à l'autre bout.
Plus de trafic.
Ben, c'est ça.
Hein? On se auto-téléporte à quelque part.
Allons-y plus sérieusement, cher ami, avec les sujets que nous allons aborder cette semaine. On peut contenir des infos.
Oui, bien, justement, parlant de téléportation, moi, je vais te parler de télétravailler à des endroits paradisiaques. Ou, tu sais, on parle, oui, peut-être paradisiaque, ça peut être dans le sud, mais ça peut être aussi de beaux endroits ici même au Canada.
OK.
Je vais aussi te parler de plaisir coupable parce que j'ai réalisé des choses cette semaine, Simon.
T'as réalisé des affaires? Ah oui. Hein?
J'ai un problème.
Ah oui?
Je vais vous en parler plus tard.
OK, une prise de conscience. Voilà.
Je me suis auto-faite une intervention.
C'est ça, tu sais, la fille, elle s'auto-diagnostique.
Exactement. Bon. Et je vais vous terminer ça avec, bien évidemment, le beau temps, les beaux jours égale aussi tics et maladies de Lyme. Donc, juste des petits trucs là, pour prévenir la maladie.
Et tu vas commencer avec le télétravail. Moi, je vais vous annoncer, avant que tu commences, je vais vous annoncer quand même les sujets dont moi je vais parler. Je vais parler de l'avion civil le plus rapide du monde après le Concorde.
Oh, je connais pas.
Et il sera d'origine... canadienne.
Vraiment?
Vraiment.
Intéressant.
Vraiment. Je vous raconterai un peu l'histoire de la route de la soie.
Oh.
J'aime ça, l'histoire. T'es-tu déjà rendu compte de ça?
Oui, j'ai remarqué.
Ouais.
Puis t'es chanceux, c'est quand même un intérêt que j'ai. J'apprécie l'histoire.
J'aurais pu faire historien, je pense, si j'avais
pas. Oh, t'aurais été bon.
Oui, je pense que j'ai un petit peu la fibre pour ça. Marketplace, on vous lance une petite alerte contre la fraude.
Mm.
Puis là, ça vient pas juste de votre beau-frère ou votre belle-sœur qui s'est fait prendre. Ça vient de la Gendarmerie royale du Canada.
Oh, c'est sérieux quand même, là.
C'est ça. Et puis, je vais conclure avec notre quiz. Et c'est tout ce dont on va parler cette semaine?
Je sais pas. Moi, des peintres des années 1324?
Non. On va parler. Et même moi, franchement, j'en ai appris quand je l'ai préparé, le monde fascinant des fourmis.
Oh, j'aime ça.
Ouais, hein?
Écoute, je suis pas certaine de ma vaste connaissance des fourmis, mais je suis très intéressée envers les fourmis.
Mais ça va être intéressant.
Oui.
Ouais, franchement, il y a des questions qui sont quand même assez faciles. Je pense que tout le monde va y répondre, mais il y en a d'autres qui vont peut-être un petit peu, piquer un peu votre curiosité ou en tout cas attiser votre soif de connaissance. Commençons avec le télétravail, mais... next level, tu sais, 2.0.
Oui, c'est en plein ça. On a tous connu le télétravail avec la pandémie. Bon, des fois, c'était pas très exotique, là, dans le fin fond de notre sous-sol, pas de lumière avec une lampe. Mais il y en a qui ont décidé de pousser ça un peu plus loin. C'est une nouvelle tendance. Donc, c'est travailler depuis un coin de paradis. Donc, je sais pas, moi, tu rêves d'aller au Costa Rica. Ben, tu relis ton télétravail avec ton rêve de voyager. Tu travailles du Costa Rica. Puis après ça, ben, quand tu as fini de travailler ta journée normale, ben, tu peux profiter puis aller voyager. Bon, je te vois le visage et je te vois réagir. C'est une tendance qui est de plus en plus commune et qui est en augmentation dans les dernières années. Et ça s'appelle les tracances, comme travail, vacances, une compression, tout ça.
OK.
Là, des tracances.
On est rendu là.
Oui. Bon, je te garantis pas que le Larousse va le mettre dans le dictionnaire l'année prochaine, mais quand même, on a des tracances, donc t'as pas l'air convaincu.
Non, c'est correct, parce que, écoute,
oui.
Je suis peut-être pas de la bonne génération. Là,
mais c'est autre chose aussi. Puis, tu sais, je suis pas certaine, moi non plus, parce que, bon, Tant que t'es efficace puis que tes choses sont faites, c'est correct. Mais tu sais, en même temps, ça prend un certain... Faut venir au bureau une fois de temps en temps. Il y a un esprit d'équipe à construire. Mais bref, dans les témoignages que j'ai trouvés, c'est surtout des travailleurs autonomes ou des travailleurs qui sont à leur propre compagnie. Donc, des psychologues, des psychothérapeutes qui font des sessions Zoom avec leurs clients.
Okay.
Et après ça, peuvent profiter de l'endroit où ils se trouvent.
Bon.
Est-ce qu'il y aurait un endroit, toi, en particulier, qui t'attirait? Comme, oh, j'aimerais ça télétravailler de cet endroit-là.
Vite comme ça, je sais pas, honnêtement. C'est peut-être parce que j'ai les deux pieds trop ancrés dans mon quotidien de venir au bureau et tout ça.
Ouais.
La misère à me projeter dans cet univers de travail-là, d'aller à l'étranger ou même, je sais pas, moi, dans une province voisine pour aller travailler, je sais pas. Ça, en tout cas...
Ben, c'est qu'on a tout un peu ici. Où est situé l'Arc à Ottawa? Puis je me suis posé la question, moi aussi, je me suis dit, où j'aimerais télétravailler? Puis pour vrai, je suis contente de la situation qu'on a actuellement.
Hybride, là?
Oui, c'est ça, hybride, parce que j'ai besoin de le contact, justement, où on se voit au bureau, qu'on a l'émission, qu'on discute, qu'on échange sur différents sujets.
C'est ça.
Mais c'est le fun aussi d'avoir un espace pour pouvoir travailler puis se concentrer après sur d'autres dossiers. Fait qu'après, c'est comme une gestion d'horaire, dans le sens, bon, ce que j'ai à faire, qui sont plus des travails de groupe ou des travails d'équipe, on le fait quand on est en travail présentiel. Puis ce qui est plus tout seul, ben on le fait en travail à la maison après. Fait que c'est vraiment comme une nouvelle tendance. Mais c'est ça. Moi, je trouve qu'on est quand même chanceux ici à Ottawa d'avoir tout ça ici. On peut se permettre de télétravailler, d'avoir le côté hybride, puis on manque de rien en même temps.
Ben c'est un peu le meilleur des deux mondes.
Oui, puis c'est un peu comme ça aussi un peu partout dans les grandes villes. Fait que c'est un peu le moyen de s'en sortir.
Là, j'entends des mécaniciens, par exemple, qui nous autres nous envient un petit peu, puis ils disent, ben c'est ça, moi je travaille dans mon garage, puis je peux pas bouger de là. Mais, tu sais, je veux dire, à chaque métier ou chaque travail, c'est bon puis c'est moins bon côté.
Oui, tout à fait. Puis il y a ses avantages, des inconvénients. Tu sais, comme nous, avec la radio, une émission, on n'a pas le choix d'être ensemble. Je trouve c'est mieux toujours en présentiel. Il peut arriver des choses où on pourrait enregistrer ou ce serait séparé, mais quand même, je trouve que pour le travail, pour le rendu de l'émission, c'est important. Où on pense aux gens qui peuvent travailler sur une chaîne mécanique dans une usine, bien, c'est un peu difficile de télétravailler. Puis j'ai peut-être une solution, je pense à ça, pour ton mécanicien, s'il veut faire du télétravail, il peut travailler de son propre garage, de la maison.
Oui, il y a ça. Oui.
Voilà.
Ou encore avoir son petit atelier qui se déplace. On voit ça de plus en plus, d'ailleurs.
Ah oui, ça, c'est des bonnes idées.
J'ai fait réparer ou maintenir mon vélo il y a un an ou deux, puis le gars, il s'est déplacé, il vient à la maison chez vous avec sa espèce d'atelier ambulant, si on veut.
Petite caravane, une petite vanne,
oui. Oui, c'est ça. Puis rentre ton vélo là-dedans, c'est comme fait comme, OK, toi, t'es comme pas dans un bureau 8 à 4, là.
T'sais. Non, c'est ça. Puis ça, tu vois, c'est une autre belle alternative aussi pour faire changement avec ceux qui aiment pas trop la routine d'aller au bureau. Fait que je voulais un peu vous parler de ça aujourd'hui, comme que c'est possible, dépendamment aussi de votre patron. Ça prend un patron avec une très grande ouverture d'esprit.
Où que tu sois ton propre patron.
Voilà.
C'est ça. Je vous parle de l'avion le plus rapide du monde, avion civil, entendons-nous.
Oui.
Quand même pas un jet là, de l'armée. Là. C'est l'avion civil le plus rapide du monde après le Concorde. Il sera canadien.
Mais qui sera le fabricant?
Ben, on n'a pas 50 000 fabricants d'aéronautique au Canada. C'est Bombardier.
OK.
Alors, c'est clair. Les Canadiens s'en rendent sans doute pas compte, là, mais on vient de poser un jalon important dans l'histoire de l'aviation civile. On va fabriquer l'avion civil le plus rapide du monde depuis le Concorde.
OK, ça fait quand même un certain moment pour cet avion-là.
Bien, le Concorde, il est disparu. En fait, on l'a retiré de la circulation en 2003, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années. Alors, on est encore quand même un peu loin là, de la vitesse du Concorde, je dois vous avertir. Le Concorde, lui, il allait à 2160 km/h. Ça, c'était Mach 2.0.
OK.
Celui dont on parle actuellement, qui est le plus rapide depuis ce moment-là dans l'aviation civile, il ira à Mach 0.94.
Oh, on est quand même loin.
Ben, c'est à peu près la moitié, mais ça reste quand même assez impressionnant.
Oui.
Alors, c'est le Global 8000 de Bombardier et qui s'apprête à devenir l'avion, comme je le disais, le plus rapide du monde, avion civil, on s'entend. Et Mach.94, là, c'est quand même 1161 km/h.
Oh, ça décoiffe quelqu'un, quand même.
Quand même un peu plus rapide qu'une Civic, mettons.
Oui, puis t'es pas décapotable, parce que, oh là là!
Et c'est à peine moins vite que la vitesse du son. La vitesse du son, c'est Mach 1, évidemment, et ça, c'est à peu près 1240 km/h. Alors, vous voyez qu'on est quand même pas trop loin là, de la vitesse du son. Il a réalisé son vol inaugural le 16 mai dernier, à Mississauga, en Ontario. Et il a tellement dépassé les attentes de ses fabricants que là, on s'est dit, ben on est rendu à l'étape de commercialiser.
Wow. Puis on voudrait s'en servir pour quoi? Plus privé? Pour des vols? Pour des voyage?
Ça va être plus privé. Ça va être c'est un jet d'affaires.
Okay.
Quoique ça peut arriver qu'il y ait des compagnies aériennes qui s'en servent pour transporter quand même des gens sur des couloirs aériens bien définis, parce qu'ils transportent quand même jusqu'à 19 passagers.
OK, c'est un petit avion.
C'est ça, c'est un petit jet d'affaires. Il peut parcourir, et ça c'est assez impressionnant, 8000 milles nautiques, c'est 15 000 kilomètres. c'est quand même pas mal, là. Il deviendra l'avion civil le plus rapide du monde depuis que le Concorde a été mis au rencard en 2003, mais mieux encore, il va être capable d'accoter à toute fin utile des gros porteurs comme, par exemple, des Boeing 747 qui font 13 000, 14 000 kilomètres à peu près.
Hey, c'est impressionnant un avion vraiment plus petit. Là.
Oui, absolument. Alors, on peut penser à quoi? On peut penser à des couloirs aériens comme Dubaï-Houston, par exemple. Il va pouvoir relier Singapour-Los Angeles ou même vous amener de Londres en Angleterre jusqu'à Perth en Australie.
Wow!
C'est quand même pas la porte d'à côté.
Non,
alors,
non.
Et ses avantages, évidemment, ça s'arrête pas juste à sa vitesse et son autonomie impressionnante parce qu'il y a des caractéristiques techniques qui vont lui permettre d'atteindre des destinations qui sont quand même assez difficiles d'accès pour des gros porteurs à cause de sa petitesse, si vous me prêtez l'expression, c'est son format quand même assez réduit, c'est un avion de 19 places, il va pouvoir atterrir et décoller, forcément, à partir d'aéroports où tu pourrais pas faire atterrir un Boeing 747.
Là où les pistes sont plus courtes des fois, où c'est moins gros, il y a moins d'installations.
Exactement. Okay. Et ben c'est de cette façon-là, donc on va pouvoir relier quand même des destinations qui seraient pas accessibles autrement. Et outre ses prouesses de vol, le Global 8000 de Bombardier va offrir à ses passagers tout le luxe et le confort, évidemment, qu'on peut s'attendre d'un jet.
Ben, on espère, hein, quand même.
Ben, le Concorde, c'était quand même un gros appareil, mais il avait cette particularité, c'était confortable, là. Tu sais, le Concorde, c'était le gros luxe, là. Des fauteuils capitonnés, puis ça s'inclinait quasiment dans un Lazy Boy.
Oui, quasiment, ouais, c'est ça, une chaise
de la place pour les pattes. Et cet appareil-là va avoir des espaces pour dormir.
Oh, c'est bien ça.
Une salle de conférence. Il va avoir également un coin de divertissement et il y a une aire de repos qui est destinée qu'à l'équipage.
Oh, c'est bien.
Donc, c'est
super.
Pour vous dire. Alors, pendant que vous allez voler, le pilote pourra tout simplement sortir du cockpit et aller se délier les jambes et tout ça, puis tout simplement.
J'apprécierais qu'il reste quand même près des commandes. T'sais.
Ça serait pas pire.
Oui.
C'est un minimum.
Au moins pas de sieste.
Ou d'au moins avoir un beau pilote qui est là pour s'en occuper.
On le souhaite, on espère.
On va marquer un temps d'arrêt. C'est la fin de notre premier bloc. Dans un instant, on va parler de plaisir coupable et je vous expliquerai également comment la route de la soie est née.
Restez en contact avec Le Contenir des infos.
Le Contenir des infos. Le Contenir des infos.
Écrivez-nous par courriel. pcdi@radiorfa.com.
Le Contenir des infos.
Dans un moment, Cathy, tu vas nous parler de plaisir coupable.
Oui, je vais vous parler de mon problème. Puis je pense que je ne suis pas la seule qui l'a. On va s'en parler en groupe.
OK, parfait. D'abord, je veux vous parler un petit peu de la route de la soie.
Hey, ça m'intrigue. Je ne suis pas sûre de savoir de quoi tu parles.
Oui, bien, la route de la soie, c'est quelque chose que je vous dirais qui est, à quelque part, fondamental dans l'histoire du commerce international.
OK.
OK. C'est parce que j'ai lu récemment un article du National Geographic qui a particulièrement piqué mon attention ou ma curiosité. Puis, je voulais vous en partager les grandes lignes parce que c'est l'une des routes commerciales les plus fameuses de l'histoire. Et surtout, ce que je veux vous expliquer, c'est pourquoi on l'a créée, comment est arrivée la route de la soie. T'as déjà entendu parler de la route de la soie pour ça.
Oui, c'est pas la première fois, mais j'avais pas exploré un peu le phénomène.
Ouais. Ben, c'est dans une certaine mesure la première grande démonstration, si on veut, de l'histoire du commerce international.
Okay.
Parce que tu sais qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de problématique de commerce avec nos voisins du Sud. Hein?
Oui.
Il y a du commerce transfrontalier qui se fait de moins en moins entre les États-Unis et le Canada, ou plus difficilement.
Oui, moins facilement, tout à fait.
Mais, donc, la route de la soie, c'est la première grande démonstration, pour ainsi dire, des échanges commerciaux en bonne et due forme entre deux grandes régions du monde, c'est-à-dire l'Occident et de l'autre côté, l'Orient.
OK. Hein,
c'est ça, la route de la soie. Et c'est une invention moderne. Tu sais, on pense des fois à la route de la soie. Quand est-ce que ça a été inventé, le terme de la route de la soie? Ben, je vous le dis, là, dans le temps, quand ils faisaient le commerce, ils disaient pas « Chérie, je m'en vais faire la route de la soie. »
Ah non, j'étais un peu déçu, par exemple. Je pensais que c'était comme un concept des années 1447.
C'est plus moderne que ça, beaucoup plus.
OK. 1800. C'est précis, hein?
1838. C'est un géographe allemand, Karl Ritter, qui, lui, a décrit la route de la soie parce qu'eux autres, ils décrivaient pas ça comme ça. Ils disaient pas, comme je disais, là, je m'en vais faire la route de la soie. Là.
Non, c'est sûrement que je m'en vais vendre tel produit ou telle chose.
Monsieur Ritter s'était aperçu, évidemment, que le commerce de la soie, pour ainsi dire, avait emprunté certaines routes plutôt bien définies et c'est lui qui, en 1838, est arrivé avec ce concept-là. Mais c'est quoi la route de la soie? et pourquoi elle est si célèbre? Ben, la route de la soie, c'était une espèce de réseau terrestre et maritime qui a vu le jour avec des visions, on va dire, expansionnistes des Occidentaux et des Orientaux également. C'est qu'on voulait conquérir du... Ben, conquérir. On voulait...
Exporter, peut-être.
Exporter, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, conquérir de nouveaux marchés, ce serait très correct comme expression. Et on voulait justement trouver de nouveaux débouchés pour nos produits. Alors, autant les marchands ou les commerçants de l'Occident, en Europe, par exemple, ou au Proche-Orient, que ceux qui étaient en Extrême-Orient voulaient que leurs marchandises circulent d'un endroit à l'autre. Et de quoi parle-t-on? À cette époque-là, ben, tissus et fourrures, pierres précieuses, les épices.
Oui, oui.
Évidemment, les métaux rares, de l'or, des céramiques, du corail. Donc, c'était pas uniquement de la soie, mais le nom de la soie a été retenu pour les raisons bien particulières que on cherchait surtout de la soie.
OK, pour le tissu, c'est
pour,
vraiment...
Pour le tissu, exactement. Ouais, okay. Alors, elle est née dès le 2e siècle avant Jésus-Christ.
Oh!
Oui, quand même. Hein? Quand même.
Mais en même temps, ça fait aussi du sens d'avoir une route qui est tracée pour les commerçants parce que c'est un chemin qui est plus facile. Tu sais qu'il n'y a pas d'embûche. On connaît la route, là, tu sais, c'est pour faciliter les choses.
Voilà. Et c'est qu'à cette époque-là, comme je le disais tout à l'heure, on commence à parcourir de façon plus régulière et plus structurée des espèces de tracés qui sont quand même assez bien définis pour aller chercher, comme je le disais, toutes ces denrées-là, mais particulièrement de la soie. Les Occidentaux, à ce moment-là, au 2e siècle avant Jésus-Christ, se sont déjà rendu jusqu'en Orient. Ils ont déjà découvert le territoire, oui. Ils l'ont déjà foulé, ils ont même déjà campé là. On parle du grand roi macédonien Alexandre le Grand qui, plus de 300 ans avant Jésus-Christ, avait déjà campé sur les territoires. Mais on ne faisait pas proprement parler de commerce à ce moment-là encore.
OK, on était vraiment juste à occuper c'est le ça. Territoire, à être là.
Et c'est au moment où les Romains, entre autres, commencent à avoir besoin de beaucoup de soie pour le plaisir des messieurs et des madames qui vont se vêtir. Alors, ils disent, ouais, ben là, de la soie, là, on a de moins en moins, on a besoin de plus de soie. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à tracer des voies, pour ainsi dire, pour se rendre faire le commerce de la soie avec les Chinois. Et les Romains ne connaissaient rien de la soie là, à ce moment-là.
Vraiment?
Non.
Et pourtant, c'est quand même des gens qui étaient très, très bien habillés quand même. Là.
Ils en consommaient, ils en achetaient, oui. Ils savaient que ça existait, mais eux autres, ils pensaient que c'était comme ça poussait dans les plants.
Ah, comme tu vas à l'épicerie, tiens, une robe.
C'est ça, exactement, à toute fin de titre.
OK,
ils
voilà.
Ils ne savaient pas que la soie était faite par les vers à soie.
Okay.
Entre autres choses. Et ça, les Chinois, les Romains les appelaient le peuple de la soie.
Ah oui.
Carrément.
Parce qu'ils possédaient le savoir.
Bien, tu vois, un peu, il y a une racine en tout ça, chinois, soie, tu sais, c'est comme ça se ressemble.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, les Chinois étaient considérés comme par les Romains sous le nom des serres. Les serres, ce sont les habitants de la Cérique, le pays des serres, et on en parlait carrément comme du pays de la soie.
Wow.
Littéralement. Alors, la route de la soie est là, pour ainsi dire, vue naissance parce que les Romains cherchaient de la soie. Ils sont allés voir les Chinois. Les Chinois leur ont fourgué ou vendu de la soie. Et c'est comme ça que la route de la soie, à partir de ce moment-là, a commencé à naître. Et là, on s'est plus contenté de s'en aller un peu partout là, pour commercer. On a défini des routes très, 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 très distinctes, tant maritimes que terrestres, pour aller chercher de la soie. Et c'est de cette façon-là. Donc, puis ça s'est imposé très, très longtemps. Hein. Ça a duré pendant des siècles et des siècles, la route de la soie. Et c'est tellement connu que même encore aujourd'hui, on parle dans les livres d'histoire de la route de la soie. Et si vous voulez avoir davantage de détails là-dessus, vous irez lire le nationalgeographic.fr en version française. Lisez, ça s'appelle Rome avait besoin de soie, la Chine en avait. Alors, comment la route de la soie a été créée? J'ai trouvé ça fascinant comme histoire.
Hey, c'est intéressant, puis peut-être que tu ne me verras pas venir, mais il y a un lien entre ta chronique et la mienne.
OK, oui.
La soie a créé des plaisirs coupables.
Ah, absolument, hein? Absolument.
On voulait se vêtir, on voulait être bien habillé, donc c'est on ça. Est allé chercher pour pouvoir répondre à notre plaisir coupable, et c'est ça dont je te parle. Parce que cette semaine, je me suis rendu compte que j'observais souvent le même genre de vidéos sur les réseaux sociaux. Tu me vois venir? Puis, c'est comme. Puis, je vais vous faire une confession à cœur ouvert. Je pense que j'ai un problème. Je trouve ça trop satisfaisant.
C'est-tu vrai?
Ah, écoute, pour vrai, ça répond à un besoin intérieur que je sais pas pourquoi, mais après d'avoir. Puis là, je vais vous le dire dans quelques secondes, là, je vous tease un petit peu, là, mais je me sens bien.
T'as comme une satiété, on va
oui,
dire. Comme
mais
si t'avais
c'est
une
complètement
faim.
Inutile pour le reste de la société, sauf pour moi-même.
OK, OK.
Les vidéos tombent de pelouse.
Ah oh, ouais, hein?
Oui! Wow. Tu vois complètement un terrain. Wow. Avec, c'est la jungle, vraiment la jungle. Wow. Il y a des arbres, des branchages, des arbustes, la pelouse qui est trop longue. Et là, les gens arrivent avec leur tracteur, brrr, leur weed eater, puis ils te nettoient ça. Oh.
Ah, vraiment?
Ah,
hein?
Oh, t'as.
Ah, tu tripes là-dessus?
Ça fait du bien. Je sais pas, mais il y a quelque chose de vraiment satisfaisant là-dedans. Fait que là, on parle des pelouses, mais il y a aussi ceux qui lavent les dalles de patio. Avec la machine
à... Avec
ouais. Ouais. Ça, je suis un peu mitigée dans le sens que ça gaspille beaucoup d'eau, puis ouais. Y a moyen... Mais c'est tellement propre.
Ben quoi que c'est moins pire un peu qu'avec le boyau d'arrosage, là.
Ah oh, oui, ça, c'est ça. Sûr. Ça, rincer, ça se fat, hein, comme on
ben,
dit,
ouais,
on
c'est ça.
Fait pas ça.
Il y en a qui poussent les roches, là, avec le boyau d'arrosage.
Oui, ça, tu peux prendre un balai aussi. Mais oui, c'est ce genre de vidéo-là, puis je me suis posé la question... Pourquoi est-ce qu'on aime ça autant, ce genre de vidéos-là, ou des choses qui répondent? Il y en a, ça peut être n'importe quoi. En fait, ben, ça ramène de l'ordre un peu dans le chaos. T'sais, nos vies, ça va vite, ça oui. bouge. On est stimulé à gauche et à droite des fois. Donc, ça peut ramener un peu d'ordre, un peu de paix dans notre vie. Ensuite, ben, ça peut aussi nous aider, en fait, à essayer de ramener une paix intérieure. T'sais, parce que des fois, comme je te disais, ça va vite. Puis on s'arrête. Pendant 3 minutes, on voit la vidéo en accéléré de la pelouse qui se fait plus. Oh. On est apaisé, puis on peut repartir. Tu sais, des fois, quand on vit des petites frustrations, petite vidéo de pelouse, puis on repart.
Ben oui, c'est vrai. On met notre vie sur pause pour regarder la vie de quelqu'un d'autre par procuration, dans un certain sens.
Oui, exactement, pour se faire du bien, puis en fait, ça sert à rien. Mais il y a toutes sortes aussi de plaisirs coupables. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir peut-être à un plaisir coupable que tu as? Sinon, je te laisse réfléchir.
Ben, sais-tu que comme vidéo, ce que j'ai pas regardé, mais ça, c'est ben gars, c'est de regarder des Driving in Russia, par exemple, où on voit des gens avoir des comportements là, complètement là, foubraques.
Ah ouais.
Ouais, ouais, ouais. Tu sais, Driving in Russia particulièrement, okay. Quand tu regardes ça sur YouTube, c'est fascinant. Okay. Tu vois des gens, là, par exemple, qui font des dépassements là, pas rapport.
Oh, ouais.
Du monde se rentre dedans. Tu sais, mais comme tu dis, voyons, il est arrivé middle of nowhere comme ça. C'est quoi la patente? Ça, j'haïs pas ça, regarder ça une fois de temps en temps.
Okay.
C'est pas un plaisir coupable, mais quand je tombe sur YouTube et je tombe sur une vidéo comme ça, j'haïs pas ça.
Mais tu vois, ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien. Je me dis après ça, je me dis, mais ma foi du ciel, je conduis tellement bien, me semble.
Oui, puis ça nous réconforte aussi. Oui. Quand moi, je regarde les pelouses, je me dis, mon Dieu, je ne laisserai jamais parce que j'ai vraiment... à la maison, c'est moi qui tond la pelouse. Okay. J'aime vraiment ça. Je sais pas c'est quoi cette espèce de maladie mentale-là.
Ah non, mais
j'aime ça avoir une belle pelouse, un beau terrain. Puis je me dis, mon Dieu, je ne laisserai jamais mon terrain aller comme ça, mais je me sens tellement satisfaite de le voir se faire nettoyer que je me dis, en tout cas... C'est...
Le sentiment du devoir accompli. Là.
Exactement, un beau travail qui a été fait. D'autres plaisirs coupables aussi, parce que je me suis dit, je vais faire le tour un peu de mon entourage, voir quels sont leurs plaisirs coupables à eux. Écouter la même chanson à peu près 27 fois sur repeat.
OK.
C'est correct. C'est un plaisir coupable tant que t'es tout seul puis que t'achales personne. Ça, c'est la première condition. Flâner sur les sites de vente immobilière. Tu sais, des fois, oh,
oui.
On va voir les maisons. C'est le fun. C'est on magasine pas nécessairement de maison, mais on va zioter. Puis là, oh, le voisin aime bien la maison à vendre.
Hey!
On va-tu voir ça?
On voit une pancarte.
Ouais,
t'as raison,
ça.
Hein? C'est vrai, pareil. Ça, c'est plaisir coupable pas mal.
Oui, puis qu'est-ce qu'on fait après ça? On se compare. Ah! Bien plus beau chez nous.
Bien plus beau, hein?
Moi, je ne paierais pas ce prix-là pour cette maison-là. Hein? Fait que, tu sais, ça a des petits plaisirs
c'est
coupables
vrai.
Comme ça. Prochain plaisir coupable, et là, je salue mon papa. Aller faire un tour au Canadian Tire pour rien. Tu sais, t'as pas besoin de rien. T'as pas. Juste, fais le tour. Tu regardes des affaires. On va voir les affaires d'auto. Puis au Canadian Tire, t'as de tout, hein?
T'as de tout.
Ben, tu peux faire un tour dans la cuisine, tu peux faire un tour dans le jardin, dans les sports, dans le centre automobile, puis après ça, tu repars, t'es content.
Je vais vendre le plaisir coupable de ma conjointe. Je pense qu'elle, elle passerait des journées dans un Canadian Tire.
Ah, mais je la comprends.
Ah ouais, ouais, OK, clair.
Tout à fait. Écoute, il manque juste l'épicerie au Canadian Tire.
C'est à peu près, puis je pense qu'elle rentre un petit peu. Là. Des fois, t'as des chips, mais c'est pas grand-chose. Du café, de la liqueur, mais tu sais, ça dépasse pas ça. Mais le jour où ils vont rentrer des douzaines d'œufs puis du pain tranché, là...
Bye-bye.
Je vais la perdre, là.
C'est ça.
Je vais être un veuf du Canadian Tire.
C'est en plein ça, mais ça fait partie des plaisirs coupables. Puis c'est le fun aussi de juste aller voir faire le tour. Sinon, allez, ça, si vous l'avez jamais fait, je vous invite aussi à le faire. Allez lire les commentaires sur les recettes qu'on ne cuisinera pas. Surtout sur le site de Ricardo.
Ça, c'est mourant.
Écoute, des fois, je sais pas, il y a des gens qui ont peut-être trop de temps ou qui sont drôles de nature puis qui ont un flash, mais pour vrai, c'est savoureux. Vraiment, les commentaires, c'est de toute beauté. On peut en avoir de toutes sortes. J'ai essayé telle affaire, tu peux-tu me remplacer? C'est très drôle. Et ben aussi, des fois, quand on se sent un peu moins bien, je parle pour les filles, là, peut-être, tu sais, faire du magasinage en ligne, on met des choses dans le panier, on met des choses dans le panier puis on n'achète jamais finalement.
Ouais, c'est ça.
Ah, ça aussi, ça peut faire du bien. Fait que tu sais, dans le fond, c'est quoi un plaisir coupable? C'est des petites choses qui nous font du bien, qui sont pas trop honteuses, qui font pas de mal à personne, mais qui sont propres à nous. Puis tu sais, en même temps, je vous invite à embrasser vos plaisirs coupables.
Ben absolument.
Tantôt, je disais que j'avais un problème, là, mais là, je vous entends, tu sais, puis je vous entends tous réfléchir. Hey, moi aussi, je fais ça. si je fais ça, ça fait du bien.
Ça fait du bien.
Faut le faire.
Des petits à moi, de moi, puis même pas besoin de s'envoyer un faire-part, tu sais. Tu le fais, puis...
Non, ouais, voilà, puis tu sais, tu peux dire, je tape un peu, je regarde la vidéo, là, il va finir sa pelouse, il sera pas long.
Un petit peu ça. Merci! Merci, c'est vraiment très intéressant. On s'est tous découvert un plaisir coupable. Je me suis rendu compte moi-même que j'en avais un de regarder des fois, de temps en temps, des petites vidéos de gars qui se rentrent dedans, ces autos.
Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. C'est pas nous, hein? Fait que c'est correct.
C'est ça. C'est bien drôle. C'est pas moi qui a besoin d'appeler la compagnie d'assurance après. OK. Dans un instant, on va parler, entre autres choses, ton autre sujet, c'est...
Oui, je veux faire tic, maladie de Lyme, les beaux temps, il faut faire attention, là, ça s'en vient de plus en plus présent au Canada.
Et moi, je vous invite à vous méfier des fraudes qui courent actuellement sur Marketplace.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Dans un instant, on va vous inviter à vous méfier d'une fraude qui a cours ces jours-ci sur Marketplace. Tu connais Marketplace? Là,
le... Oui. J'ai vendu plusieurs choses de bébés sur ces...
Ah oui, c'est vrai?
Oui, quand même. Ben, c'est intéressant. T'sais, ça coûte cher, les choses de bébés, puis il y a des choses qui sont en bonne condition, seconde main. Pourquoi pas redonner une deuxième vie?
Je vais te faire une confession. Je n'ai jamais vendu rien sur Marketplace. Jamais. Et j'ai... je dirais pas un profond mépris ou dégoût de Facebook, mais mettons que c'est pas mon site préféré en partant.
Non, je comprends. Puis je te dirais, dans les choses que j'ai vendues, moi, sur Marketplace, les choses de bébé, ça a été les plus compliquées. Je sais pas ce qui se passe dans la tête d'une maman. Où, comme, j'avais beaucoup de demandes d'informations et puis aucun retour par la suite. Puis, ben, c'est souvent ça, mais non, j'aime bien Marketplace. D'ailleurs, j'ai ma maison qui est en vente là-dessus s'il y a des gens.
C'est pour
qui...
vrai? Hein?
Oui, oui. Ah, ouais. Mais on a notre agent, on a ça aussi, mais en même temps, c'est une autre visibilité.
Ben oui.
Puis ça peut traîner. C'est pas tout le monde qui a le plaisir coupable d'aller voir les maisons, mais il y a des gens qui vont sur Facebook, fait qu'ils peuvent voir la maison aussi.
Ben avant que je vous parle de cette fraude qui a cours ces jours-ci sur Marketplace, parle-nous d'un problème de santé publique, que je pourrais dire.
Oui, une autre mise en garde un peu, ce sera notre bloc pour mettre nos auditeurs. Oui, c'est
ding.
Ça. Attention. Donc, d'un sujet qui revient souvent avec les beaux jours, c'est la maladie de Lyme. Donc, transmise par les tiques, des petites bêtes qu'on rencontre de plus en plus souvent, un peu partout dans les différentes régions au Canada. Avant, c'était plus aux États-Unis, mais avec les changements climatiques, avec le réchauffement aussi, bien, on en a de plus en plus, là, surtout dans les régions boisées, humides et même certaines zones urbaines. Donc, c'est quoi la maladie de Lyme? Est-ce que tu as une idée un peu?
Moi, on m'a déjà décrit cette maladie-là un petit peu, ou enfin certains symptômes chez certaines personnes, comme presque une mononucléose dans un certain sens.
Oui, effectivement, ça fait partie des choses qui sont nommées. La maladie de Lyme, en fait, c'est une infection qui est causée par une bactérie, puis là, je vais te sortir mon latin, là,
okay.
Qui est appelée Borrelia burgdorferi, qui est transmise donc par la morsure de certaines tiques à pattes noires. T'es impressionné par mon latin?
Un peu rouillé. Il était un peu rouillé, mais c'est correct.
Oui, c'est quand même une langue éteinte. Hein, t'es pas...
C'est ça. On ne pratique pas le latin tous les jours.
Non. Ça serait particulier. Donc, toujours pour revenir à la maladie de Lyme, là, elle ne se transmet pas par contact humain. Donc, ça, c'est une des choses aussi qu'il faut savoir, ni par l'air. Il faut que la tique soit infectée pour, en fait, vous transmettre la maladie. Elle doit vous mordre aussi et rester attachée à votre peau pendant plusieurs heures. Là, on parle souvent plus de 24 heures pour qu'il y ait un risque de transmission. Donc, si, je ne sais pas, vous êtes allé à l'extérieur, faites une randonnée, vous rentrez, vous voyez que vous avez une tique, les chances sont minces. Évidemment, il y a des étapes à suivre, je vais vous en parler un peu plus tard, mais il faut quand même faire attention. Les symptômes, tu en as parlé, des fois, ça peut ressembler un peu à une mononucléose, mais il y a de la fièvre, la fatigue, beaucoup de douleurs musculaires aussi qui rendent ça difficile. On n'est pas capable de vivre le quotidien quand on a mal à nos muscles, quand on a mal au corps. Mais le signe le plus connu, c'est la fameuse rougeur en forme de cible.
Ouais.
Autour de la morsure. Donc là, c'est vraiment un indice assez infaillible là, que la maladie vous a été transmise. Puis en fait, sans traitement, ça peut s'aggraver, évidemment, comme n'importe quelle maladie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le traitement a évolué. C'était plus difficile il y a quelques années, là, mais vraiment, la science a mis une grosse go là-dessus là, pour pouvoir faire de la recherche. Donc, comme je disais, depuis une dizaine d'années, la maladie progresse vers le nord, donc vers ici à cause des changements climatiques. Et on trouve maintenant là, des habitats favorables quand même à certains endroits, plusieurs endroits au Canada, Québec, évidemment, dans le sud du Québec, sud de l'Ontario. Nouveau-Brunswick aussi, qui est un peu plus haut quand même que certaines provinces, mais qui en retrouve, et en Nouvelle-Écosse. On en a aussi quelques cas, c'est plus petit, dans les prairies et en Colombie-Britannique.
Bref, c'est quasiment à l'échelle du Canada, sauf dans les territoires du Nord-Ouest, par exemple, Nunavut et tout ça. Là.
Exactement. Puis peut-être que c'est appelé à arriver éventuellement, dépendamment de... Bon, on espère que les changements climatiques ne s'aggraveront pas, là, mais ça peut arriver. Donc, ce n'est pas une raison d'éviter la nature. Je vous dis, on se rassure, là, parce que moi aussi, c'est quand même quelque chose, honnêtement, qui m'inquiète. Ça m'inquiétait avant. Depuis que j'ai un enfant qui joue dans le bois puis qui voudrait passer sa vie dehors, ça m'inquiète énormément. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire à part se protéger puis prendre les bonnes mesures? Une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, peut-être quelques trucs, gestes simples et efficaces pour réduire les risques. Avant de sortir dehors, avant de sortir, évidemment, porter des vêtements longs de couleur claire. Donc, c'est plus facile pour repérer si jamais les petites tiques vont monter sur vous. On rentre vos pantalons dans les bas. Hein? C'est un beau style.
Ben, c'est beau, ça.
Ben, on fait ça aussi pour ne pas se maganer de pantalon avec la chaîne de bicycle.
Exactement.
Hein? Ben,
donc,
pourquoi pas? Pour pas s'en mordre par une tique. Et on met du chasse-moustique aussi qui contient du DEET, qui va être, dépendamment aussi de l'âge, pour les enfants, c'est un peu moins recommandé, mais quand même. Quand on revient de la promenade, ben, ce qu'on fait, évidemment, on s'examine bien le corps pour, et celui de vos enfants pour s'assurer qu'il n'y a pas de tique et rien. Puis dans les plis, les coins, les plis de cuisse, les aisselles, les genoux, c'est là où c'est un peu plus chaud puis humide que les tiques vont apprécier. Et si jamais... malencontreusement, ça arrive et vous est fait mordre, eh bien, on vous invite, en fait, ce qu'il faut faire, c'est retirer la tique avec une fine pince en tirant doucement, puis il y a des pinces qui sont faites pour ça. Il faut pas, tu sais, il y a des fois sur Internet, tu peux mettre de l'alcool. On fait pas ça. C'est pas une bonne idée. Une pince, tranquillement, si vous êtes pas sûr, vous pouvez même aller à la pharmacie puis vous pouvez avoir des conseils. Là. Oubliez pas, vous avez 24 heures. Vous avez pas 24 minutes. Vous avez le temps au moins de faire les choses bien. On s'est désinfecté ou on a été mordu, puis après ça, surveiller puis prendre la date en note. Exemple, le 27 mai, telle journée, je me suis fait mordre à telle heure, puis surveiller ensuite les signes. Puis bon, c'est sûr que ça fait partie aujourd'hui de la réalité, mais en ayant ces quelques trucs-là, je pense que c'est une bonne façon de s'équiper puis pouvoir après ça aller faire du camping, profiter de l'extérieur puis jouer dehors en sécurité.
Il ne faut pas rester enfermé chez soi quand il y a des problèmes de santé publique comme ça. Je veux dire,
mais non.
Dès le moment où tu franchis la porte de la maison chez vous, tu es en situation potentielle de danger dans le monde dans lequel on évolue, tu sais, en tout pis moi.
Oui, c'est vrai. Puis il peut arriver toutes sortes de choses.
Tout plein d'affaires. Ça fait que restez pas dans la maison chez vous à cause de la maladie de Lyme puis de la tique là, qui risque de vous mordre. Vous avez juste à agir de façon, comment je dirais ça, un peu plus précautionneuse dans
c'est
un certain sens.
Puis en sachant que ça existe, en sachant que c'est là, bien, on est plus conscient puis on fait attention. Puis en même temps, c'est pas bon de rester en dedans. Il faut sortir de l'or, prendre l'air, prendre des couleurs, parce que sinon on vient blanc et maigri.
Que c'est bien dit.
Ça conclut, voilà.
Merci, belle conclusion. Tu l'as dit tantôt, Marketplace, hein, c'est un endroit très fréquenté sur Internet, oui, où les gens effectuent des transactions, des ventes. Ben, y a une fraude qui est bien particulière ces jours-ci, qui fait des ravages, j'oserais dire.
Ah, ça, c'est inquiétant.
Tellement que là, c'est plus le beau-frère ou la belle-sœur qui vous dit « faites attention là, quand vous annoncez sur Marketplace ». C'est la Gendarmerie royale du Canada.
Hey, rien de moins.
Et différents corps policiers qui vous avertissent de cette fraude-là. La façon dont ça fonctionne, c'est que d'abord, un fraudeur se fait passer pour un acheteur potentiel.
Mm-hmm.
Si je suis intéressé par ta patente, il contacte la personne qui vend des articles sur Marketplace et prétend être prêt à l'acheter. Puis il dit, regarde, je vais te montrer comment je suis de bonne foi. Je vais te faire un virement, je vais te faire un dépôt.
OK.
Je vais te faire un dépôt. Alors, ce qu'il dit, je veux payer tout de suite. Il vous envoie alors un faux virement par courriel. Mais le problème, c'est que quand vous cliquez le lien pour obtenir les fonds, là, on vous demande d'entrer vos renseignements bancaires.
Ah, non.
Pour pouvoir avoir le dépôt en question. Et là, magie, vous venez d'ouvrir à toute fin utile l'accès à votre compte bancaire.
Ah, ben voyons donc.
À ce fraudeur.
Ah, mais ça, c'est épouvantable. Tu sais, parce que tu veux vendre tes choses, tu penses que... Ah, faut se méfier.
Et là, la victime va recevoir un courriel qui indique que le montant va être déposé dans son compte d'ici un jour ou deux. Mais le problème, c'est que non seulement le virement n'arrive jamais, mais là, vous venez d'ouvrir la porte de votre compte en banque à des fraudeurs qui, bien au contraire, plutôt que de vous avoir déposé de l'argent, vont retirer de l'argent de votre compte.
Mais oui, un buffet ouvert rendu là.
À quelque part, c'est un peu ça. Alors, la Gendarmerie royale du Canada vous dit, vous donne quelques conseils. D'abord, pour déceler une fraude potentielle, faux virement Interac qui est envoyé par un courriel qui ne vient pas d'Interac à proprement parler, mais plutôt d'une agence comme Gmail, par exemple, ou Outlook, ou des choses
WhatsApp
comme ça.
WhatsApp aussi, il y en a beaucoup de ça.
Ben, oui, entre autres choses. Le lien du faux virement Interac mène à une page Internet au lieu du site ou de l'appli de votre banque.
Hein, tu sais, quand ça, c'est un bon indice aussi.
C'est un bon indice. Le profil Facebook du fraudeur utilise habituellement un nom commun dans la région et contient assez peu de renseignements.
Oui, et souvent pas beaucoup d'amis aussi. Ça, c'est un autre indice.
Un autre indice. Le profil Facebook a été créé, somme toute, assez récemment. Vous pouvez jeter un coup d'œil et regarder la date de la plus ancienne publication. Si vous voyez que le gars, il n'a rien publié, ou en fait, il a publié le plus récemment, c'est il y a peut-être un mois, là, quelque chose dans le genre, là, vous dites, c'est, il n'est pas là depuis 15 ans, là, le gars. Là,
non, puis des fois, c'est écrit aussi membre depuis 2008, membre depuis 2015, fait que ça donne un bon indice. Là.
Le fraudeur contrôle la conversation et choisit le mode de paiement. Si vous lui proposez, vous dites, sais-tu, moi, les virements Interact, ça me tente plus ou moins. J'aimerais ça qu'on se rencontre en personne puis que tu me donnes du cash. S'il dit, non, je veux avoir un virement Interact, déjà, vous devriez avoir un peu la puce à l'oreille. Et le fraudeur va toujours trouver une excuse pour ne jamais vous rencontrer en personne.
Oui, évidemment.
Vous savez qu'il y a des points de rencontre maintenant qui sont aménagés un peu partout à travers le pays, la plupart du temps très près des postes de police, entre autres choses.
Oui, c'est des zones sécuritaires d'échange qu'on appelle.
Exactement. C'est bien éclairé, c'est bien balisé. Et de cette façon-là, si vous vous rencontrez à cet endroit-là, vous avez la certitude que vos faits et gestes vont être, pour ainsi dire, enregistrés.
Oui.
Et ils vont être surveillés par la police. Et si jamais quelqu'un essaye de vous enlever le bien sans vous payer, il va être beaucoup plus facile de le retracer.
Oui, puis si jamais la personne n'a rien à se reprocher, ça ne lui dérangera pas non plus d'aller à cet endroit-là pour faire l'échange, alors que c'est quelqu'un qui va faire une fraude ou qui a une mauvaise idée, on va avoir un bon indice. Là.
Maintenant, comment on se protège? D'abord, vous n'acceptez pas d'être payé par virement Interac. Si ça vous tente absolument d'être payé par virement Interac, c'est à vos risques et périls dans une certaine mesure.
Oui, exactement. Ou s'il y a un virement Interac, s'assurer de peut-être voir la personne en vrai, de le faire ensemble, l'échange.
Parce que le problème avec Interac maintenant, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui permet à la personne de recevoir le dépôt sans nécessairement devoir répondre à une question de sécurité.
Oui, c'est vrai. Mais elle doit avoir fait ce choix-là.
Mais les fraudeurs, généralement, ils font le choix.
Oui, c'est plus facile.
Alors, une fois que votre virement est envoyé, bye-bye l'argent.
Ah, c'est fini.
C'est fini, là.
Tu ne peux plus l'annuler, là, parce qu'il est déjà déposé.
Et si vous décidez d'accepter le virement, prenez connaissance du processus. Ne fournissez jamais de renseignements bancaires. Je vous l'ai dit tantôt, la façon dont il opère, c'est qu'il demande vos renseignements bancaires pour déposer votre argent. Alors ça, c'est une autre affaire. Configurez des alertes de votre banque pour que n'importe quel virement qui se produit, vous receviez automatiquement une alerte. Donc, de cette façon-là, si jamais, pour une raison ou une autre, on est entré dans votre compte puis qu'il y a des transactions qui se font, au moins, vous allez le savoir, tu sais, vous allez pouvoir au moins dire à la banque, hey, arrête ça, là.
Oui, c'est pas moi, là.
Ferme la champlure. Vérifiez l'adresse de courriel de provenance du virement. Je vous l'ai dit tantôt, si c'est Gmail, tu sais, il y a une lumière qui allume.
Ouais.
Ça devrait être payments.interac.ca, l'adresse, interac.ca. Si vous cliquez sur le lien pour déposer les fonds, veillez à ce que ça vous amène directement sur le site officiel de votre banque ou une application bancaire. Regardez en haut là, si c'est écrit patenteagosse.ca.
Oui.
Là,
c'est pas comme d'habitude. Tu sais, souvent, voyons comment ça se fait qu'il me rouvre ce site-là. C'est pas comme d'habitude. On arrête ça là, on recommence le processus.
Inscrivez-vous au service de dépôt automatique de votre banque. Ainsi, tous les fonds légitimes seront automatiquement déposés dans votre compte. On l'a dit tantôt. C'est un peu la façon dont les fraudeurs fonctionnent. Mais doublez les fraudeurs. Puis si jamais ils vous envoient de l'argent, au moins leur argent va se retrouver dans votre compte en banque, puis ils vous demanderont pas « Tu peux-tu me retourner mon virement, s'il te plaît? » Parce que j'ai plus le goût, tu sais, finalement, c'est ça, c'est un peu ça.
Oui, c'est ça, faut être prudent. Puis de plus en plus, quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein?
Ça, c'est vrai, ça. C'est une bonne expression. Quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Fait que quand il y a une fraude potentielle, il y a des fraudeurs potentiels.
Exactement.
On marque un petit temps d'arrêt pour notre dernière pause de l'émission et on revient dans un instant avec le monde fascinant des fourmis.
Oh, j'ai hâte.
Tellement hâte.
Peut contenir des infos.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
Quatrième et dernier bloc de Peut contenir des infos, et c'est un quiz où je vais pas essayer de t'attraper cette semaine.
Ah, on s'est quand même bien.
Ah non, mais on n'a pas essayé de s'attraper.
Ben non, c'est ça.
C'est peut-être pas ça l'idée, mais je veux dire, je sens que je suis allé peut-être un peu trop loin dans mon quiz d'il y a deux semaines.
Oh non, mais c'est pas grave. Écoute, on a ouvert nos horizons, on a grandi notre culture générale, puis en même temps, moi, je t'ai fait connaître du country par la suite.
Exactement. Voilà. Exactement. Et là, je pense qu'on va être à peu près au même niveau.
OK.
Parce que, oui, les fourmis, je les regarde aller des fois sur le pavé. Des fois, elles s'aventurent même dans la maison. Hein. Ça arrive de temps en temps.
Oui, ça peut arriver. Ils peuvent rentrer aussi. T'as-tu vu, il y a un film aussi, Fourmise.
Fourmise.
Que j'ai beaucoup aimé.
Et là, on va se plonger justement dans ce monde fascinant des fourmis pour notre quiz cette semaine.
Incroyable.
Connais-tu un peu les fourmis?
Bien, un peu. Ouais. Comme tu dis, c'est fascinant. Je sais que ça peut lever comme 10 fois son poids. Il y a des choses qu'elles peuvent faire, puis elles ont un... Mais c'est ça, c'est fascinant. J'ai toujours l'impression de parler avec Charles Tisser quand on parle de fourmis.
De le monde fascinant des fourmis. Alors, une dizaine de questions, ça va être facile de prendre les notes puis de calculer le score. Alors, on commence avec une première. Puis, elle est facile. En tout cas, je pense qu'elle est facile. Comment appelle-t-on une colonie de fourmis? Est-ce A, une ruche? B, un essaim? C, une fourmilière? Ou D, un fourmilier?
Je pense qu'il y a une pogne dans ta question, ça se peut-tu? Dans tes choix de réponse?
Peut-être, je sais pas.
Là, 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 là. J'irais avec une fourmilière.
Ben, tu as raison.
Yes.
Tout à fait. Alors, c'est une fourmilière. La fourmilière, c'est effectivement l'habitat ou le nid là, qui est construit par les fourmis. La ruche, ben, c'est l'habitat oui. des abeilles, ça va de soi. L'essaim, c'est généralement un groupe d'insectes volants.
OK. Tu vois, j'ai eu une hésitation avec celui-là, je n'étais pas certaine.
Alors, un essaim de, je ne sais pas moi, de fourmis volantes ou
okay.
un essaim, on va dire, de guêpes ou de choses
de
comme
mouche,
ça.
De mouche, peut-être.
Ou de mouche, un essaim de mouche, mm-hmm. ouais, ça. Voilà. Et le fourmilier, ben, c'est le mammifère. Qui rafole.
Oui, avec fourmis. La longue langue.
Exact.
OK.
Voilà. Deuxième question. Quelle est la fonction première de la reine dans une colonie de fourmis? Est-ce A, diriger les ouvrières dans la recherche de nourriture? Est-ce B, défendre la colonie contre les prédateurs? C, construire et entretenir le nid? Ou D, pondre des œufs?
Ah, oh, j'irais D.
Dépondre des œufs, ben t'as bien raison.
Ouais.
Wow. C'est bon, t'as deux questions déjà de compléter, puis t'es 100% jusqu'à date. Alors, elle agit comme gestionnaire des communications entre les fourmis au sein de la colonie, mais cela dit, le vrai rôle premier de la reine, c'est d'assurer la reproduction de
oui.
la colonie de fourmis.
C'est la mère.
Et c'est elle. C'est le head office.
C'est ça.
Alors, c'est ça. Alors, elle pond des œufs. C'est sa job, grosso modo.
Quand même.
Même si tout le monde répond à quelque part un peu de ses ordres, dans un certain sens, c'est la pondeuse.
Oui, voilà. Mais de toute façon, tu ne contredis pas une femme enceinte. Donc, c'est pour ça que les autres fourmis écoutent.
Exact. C'est cool. Tu peux pas te plaindre
non,
contre ça. Là.
Voilà.
Tu comme, OK, c'est beau, on agit. Troisième question. Comment les fourmis communiquent-elles principalement entre elles?
Oh...
C'est un choix de réponse encore. C'est tout des choix de réponse.
Oui, une chance.
Est-ce A, par des ultrasons? Est-ce B, avec des phéromones? C, avec de petits signaux lumineux? Ou D, par des mouvements semblables à des danses?
Ouh, j'hésite, là.
C'est vrai?
Oui, j'hésite entre deux.
OK.
Entre le dernier puis le B. Mais je pense... Et là, 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 je pense que je vais y aller avec la danse.
Ah, ben, t'aurais dû suivre ta première instinct.
Oh non, c'était B, hein?
Ouais,
oh.
C'est des phéromones.
Oui, oh.
Les fourmis utilisent un large éventail de signaux chimiques qu'on appelle les phéromones et elles communiquent de cette façon-là diverses informations. Elles vont, par exemple, indiquer la piste vers de la nourriture.
Mm-hmm.
On voit aller les fourmis, on dit comment ça se fait qu'ils s'en vont là? Ben, c'est parce qu'elles ont laissé des traces de phéromones.
OK, simplement. Pour guider la piste.
Alors, elles vont avertir de la présence d'un danger, notamment. Elles vont libérer des phéromones. Et puis là, les ouvrières vont dire « Oh, il y a un danger qui s'approche » par ces sensations, si on veut, olfactives,
okay.
Pour ainsi dire, de ces phéromones qui ont été libérées.
C'est les abeilles qui dansent.
Elles dansent un petit peu,
ouais,
les abeilles.
Oui,
elles font
ça.
Des petits mouvements.
Oui.
Comme ça, là, sur...
C'est... Hey, c'est dommage que vous ne pouvez pas voir Simon.
C'est pas dommage. C'est heureux pour moi que vous ne me voyez pas danser sur ma chaise comme une abeille.
Maintenant, je vais voir les abeilles.
Wow!
Oh, de toute beauté.
Okay.
On veut des caméras.
On veut des caméras, on veut mettre ça sur YouTube. Ça va devenir un plaisir coupable.
Exactement.
On va faire des TikTok avec ça, Simon.
Les danses à Simon, un plaisir coupable.
Non. Alors, à part la reine qui est une femelle, les autres fourmis dans la colonie sont, selon toi, uniquement des mâles, uniquement des femelles, un mélange égal de mâles et de femelles ou principalement des femelles avec quelques mâles à certaines périodes?
Bon, la nature me dit qu'on n'a comme pas le choix d'avoir des mâles.
Non.
Donc, j'irais peut-être avec la dernière D. Majoritairement, ce sont des ouvrières, des fourmis féminines, mais il y a quelques mâles pour la reine.
Mon Dieu, t'as dépassé l'instituteur ou le prof, là, t'as donné toute la réponse, carrément. Oui, exactement, principalement des femelles. Il y a quelques mâles à certaines périodes. La très grande majorité, tu l'as dit, des fourmis qui constituent une colonie sont des femelles. Et les mâles qu'on appelle des fourmis ailées, n'apparaissent qu'à certaines périodes très précises de l'année. Elles vont faire une espèce de danse nuptiale. Okay. Et là, elles vont faire la reproduction. Elles vont féconder.
Je t'ai revu danser encore.
Tu m'as revu encore danser, hein, c'est ça? Si j'ai ça, j'ai la danse dans le corps.
Voilà, le rythme dans le sang.
Dirty dancing. Et puis, elles fécondent. Ces fourmis ailées vont féconder la reine. Et elles meurent peu de temps après avoir fécondé la reine. Patrick Chouézy, sort de ce corps.
On ne laisse pas bébé dans un coin.
Non, absolument pas. Alors, my God, que ça s'en va loin. On est rendu à la cinquième question. Quel est le nom du phénomène où certaines espèces de fourmis élèvent des pucerons pour se nourrir de leur miel-là?
Hein?
Ouais.
Je savais même pas, fait que je vais y aller par élimination, OK?
Est-ce A, elles font l'élevage des pucerons? Est-ce B, est-ce qu'elles font du mutualisme agricole? Est-ce qu'elles font du kleptoparasitisme ou est-ce qu'elles font de l'esclavagisme?
Hey, c'est une bonne question.
Ouais.
Et c'est des drôles de choix de réponse.
Oui, je sais.
J'aurais envie d'y aller pour le mot fencé, fait que je vais y aller avec C.
Tu vas dire le kleptoparasitisme?
Oui, ça.
Et non.
Ah.
Quoique, si je t'avais donné le nom un peu fancy, t'aurais dit, ah, c'est probablement ça. Elles font du mutualisme agricole qu'on appelle aussi la trophobiose.
Je comprends.
C'est un nom de même à prononcer. Alors, trophobiose, c'est le mutualisme agricole. Alors, certaines fourmis protègent des pucerons des prédateurs et les transportent vers de nouvelles plantes en échange de leur miel-là. C'est une substance sucrée qui est excrétée par les pucerons.
Incroyable.
Oui. Alors, c'est une forme de mutualisme où les deux espèces tirent un bénéfice. Les pucerons fournissent le miel-là, c'est-à-dire de la nourriture pour que les fourmis puissent se nourrir. Et les fourmis, en contrepartie, fournissent carrément de la protection aux pucerons.
Hey, c'est de l'échange. C'est du commerce.
C'est ça. C'est du mutualisme agricole.
Incroyable. Penses-tu qu'ils ont un petit solio agriculture ou quelque chose pour gérer leurs affaires? Peut-être.
Là, on fait de l'anthropomorphisme, par exemple. T'sais, si on ramène ça à des dimensions un peu humaines.
Là, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, question numéro 6. Quel est le stade de développement d'une fourmi qui suit celui de l'œuf, mais qui précède la nymphe? Est-ce que c'est A, le cocon? Est-ce B, la larve? C, l'adolescence?
OK.
Ou D, l'imago?
J'aurais envie de répondre l'adolescence, mais je vais y aller avec la larve.
La larve, ben oui, t'as bien raison. Le cycle de vie d'une fourmi a 4 stades. On commence avec un œuf, ça va de soi. Après ça, la larve, la nymphe qu'on appelle, qui se trouve parfois aussi dans un cocon, et l'adulte qu'on appelle aussi imago.
Okay.
Et la larve, c'est un stade de croissance active où la fourmi est nourrie par les ouvrières. Et ça va bien ton affaire?
Oui, quand même. Je connais plus de choses que je pensais sur les fourmis.
Comment t'es rendu là?
1, 2, 3, 4. 4 sur 6.
Wow, c'est bon, c'est génial. 7e, quelle est la particularité des fourmis légionnaires ou autrement appelées les magnats? Oh. Est-ce que A, elles construisent des fourmilières souterraines très complexes? B, elles sont principalement herbivores? C, elles ne construisent pas de nids permanents mais sont nomades? Ou D, elles ont une seule reine qui vit des centaines d'années?
Légionnaires. J'hésite. Je pense que je vais y aller avec... j'hésite entre A et D, mais je vais y aller avec A.
Ah, et non, malheureusement. Légionnaires, parce qu'elles se promènent comme une légion. Les fourmis. Alors, la réponse, c'est C. Elles ne construisent pas de nids permanents. Elles sont nomades. Et comme des légionnaires, elles avancent en colonne des raids massifs de chasse. Et leur mode de vie les amène à carrément... tout manger ce qui vit sur leur terre, sur leur passage. Là.
Donc, c'est quand même ravageur. Non?
C'est ravageur.
On les veut pas, ceux-là.
Non, on les veut pas. Okay. Elles vivent, il y en a beaucoup, par exemple, dans certains pays d'Afrique.
Okay.
Elles avancent de véritables colonnes et elles bouffent tout animal vivant. Là, tout
ben, voyons
vivant.
Donc.
Oui, les fourmis légionnaires, ça peut être franchement meurtrier. Et puis là, quand elles arrivent à quelque part, elles passent la nuit. Elles ne construisent pas de camp à proprement parler. Elles vivent les unes sur les autres. Elles forment une espèce de, comment je dirais ça, une espèce de protection là, les unes aux autres. Elles s'empilent, elles passent la nuit là. Puis le lendemain matin, elles recontinuent et elles avancent comme ça des centaines de mètres. Elles sont nomades carrément.
Eh bien, c'est effrayant quand même. Ça doit être une affaire d'Australie.
Ça fait un petit peu peur.
Oui, c'est ça.
Quel acide les fourmis utilisent-elles souvent pour se défendre ou pour attaquer? A, l'acide formique. B, l'acide citrique. C, l'acide sulfurique. Ou D, l'acide acétique.
Ouh! Ouh, hey là, puis mon chum est chimiste, hein, j'ai besoin de dire la bonne réponse. J'irai avec... j'ai envie de te dire B.
Acide citrique?
Oui.
Ça, c'est l'acide du citron.
Ah, ben oui, citrique, citron.
Alors, c'est l'acide formique.
Ça existe pour vrai? Je pensais que c'était une pogne.
Exactement.
J'étais sûre que c'était une pogne.
Ça existe. Oh. C'est l'acide formique, on l'appelle aussi l'acide méthanoïque. Elles peuvent projeter ou injecter avec leur dard, si elles en ont un, cet acide-là, comme une espèce de mécanisme de défense ou pour maîtriser leur proie. Alors, le nom formique vient d'ailleurs du mot latin formica, qui signifie...
Fourmi.
Fourmi.
Incroyable. Hey, on parle beaucoup de latin, je trouve, dans notre émission. C'est important.
C'est à se demander si on n'a pas été au séminaire quand on était jeune.
C'est ça.
Neuvième question et avant-dernière. En quoi les fourmis charpentières sont-elles spéciales? Elles érigent leur nid dans des structures de bois. Elles sont capables de produire une substance semblable à de la sciure de bois. Elles érigent des nids faits de branchages où elles ont la tête qui rappelle la forme d'un marteau. Fourmis charpentières.
En forme de scie, Aiguine. Je vais te dire A.
Ben oui, absolument. Elles érigent leur nid dans des structures de bois. Elles creusent des galeries souvent plus longues que celles des termites. Et elles ne mangent pas le bois. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'elles mangent le bois, mais c'est pas ça.
Elles font juste le défaire.
Elles font juste le défaire, puis elles vont le sortir à l'extérieur. Et c'est un peu comme des fins copeaux. Ça ressemble un peu à de la sciure de bois. Alors, si vous voyez sur le bord de votre charpente des espèces de petits trous dans le bois, puis vous voyez de la sciure à terre, là... fort à parier que vous avez des fourmis charpentières.
Ça aussi, c'est d'autres fourmis qu'on ne veut pas, mais au moins, ils font le ménage. Hein? Ils amènent la sciure dehors.
Au moins, elle ne laisse pas ça.
Tant qu'à détruire.
Dixième et dernière question. Dinoponera gigantea, on reste dans le latin, c'est l'une des plus grandes espèces de fourmis existantes au monde. Quelle taille peut-elle avoir? A, 1 à 2 cm. B, de 3 à 4 cm.
Arc.
C, 6 à 7 cm. Ou D, de 9 à 10 cm.
Je refuse D.
OK.
Et je vais y aller, je pense, avec B.
B, mais t'as bien raison.
Yes! Hey, non, c'était trop gros le reste.
J'arrête ça là!
Non, non, hey, une fourmi aussi grosse qui te regarde dans les yeux, c'est dégueulasse.
Et on conclut avec Dinoponera gigantea, qui est aussi appelée fourmi géante d'Amazonie. Elle est reconnue comme l'une des plus grandes espèces de fourmis au monde, les femelles pouvant mesurer jusqu'à 3 à 4 cm de long. Oh. C'est plus d'un pouce et demi. Et il n'y en a pas beaucoup là, qui dépassent cette espèce-là. Et encore, quand il y en a, c'est juste la reine. Là, parce que le
Oui, j'espère. Mais c'est assez. Tu n'as pas besoin d'en avoir des grosses de même.
Tu arrives face à face avec une fourmi de 3 à 4 cm, tu dis yurk.
Oui, c'est ça. Tu frappes une fourmi de même, ça poque ton char.
Ton score?
6 sur 10.
Ben bravo!
Yay!
60%.
Ta note de passage.
Bravo! Hey, tu vois, je t'ai ménagé cette fois-là.
Oui, puis c'est correct, mais en même temps, je connais donc bien des choses sur les fourmis.
T'es étonnant quand même.
Oui, voilà.
La semaine prochaine, c'est toi qui s'occupe du quiz.
Oui, tout à fait. Et j'ai pas encore trouvé de thématique, mais je vais peut-être m'inspirer de ce qui se passe cette semaine. On va voir.
Parfait. Alors, on sera là la semaine prochaine. Vous autres aussi, mesdames, messieurs, revenez-nous pour une autre édition de Peut contenir des infos. Salut!